Fox.
Ça va en forme?
Hello, yes. Alors, comme vous ne vous en doutiez pas avant d'ouvrir ce podcast, mais nous avons à nouveau l'aimable participation de Fox Pulbder de retour après notre précédent podcast. J'espère que je vais les mettre dans le bon sens parce que sinon ça va
Toujours
faire
pas
n'importe
comprendre.
quoi. Mais voilà, après le podcast sur les origines de Doc. Donc cette fois-ci, comme on a déjà fait les origines et que le futur c'est pour demain, le futur
Voilà,
c'est pas
exactement.
maintenant, c'est demain, nous avons décidé de faire un podcast un peu différent des sujets classiques qu'on utilise, parce que bon, le poulpe en lui-même ne fait pas que du poulpe, il ne fait pas que traîner près des réserves de varech et dans les endroits humides près de la mer en attendant le réveil. Il joue aussi à d'autres choses, il lit, il se documente. C'est un
Voilà,
esthète
il
du
compulse
tentacule.
des grimoires, des ouvrages.
Exactement. Pour épuiser son inspiration, ses techniques magiques et tout ce genre de choses. Donc, pour être plus concret, le but de ces podcasts, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs, on va pas tout couvrir ce soir, est un peu de parler de la culture lovecraftienne et cthulienne en dehors du jeu de rôle. Je dirais les extensions du jeu de rôle et du monde de Lovecraft que l'on a pu fréquenter ou quoi que ce soit. Bon, on n'est que tous les deux là, mais sachez que c'est toujours bien sûr ouvert à tous. Et comme on va pas tout couvrir ce soir, peut-être aurez-vous des sujets qui
Ouais,
pourraient nous
et parler de
surprendre
vos
et
coups
qui
de cœur
vont.
d'ailleurs.
Exactement, c'est complètement ouvert, parce que c'est ce qu'on va faire ce soir. Et donc on va principalement s'intéresser à la culture poulpique dans ce qu'elle a de jeux vidéo, par exemple. Bah, alors, cinéma, c'est un peu
Ouais,
vaste, on en parlera peut-être, mais c'est
exactement.
vraiment très vaste. Parce que ça va de loin en loin. Par contre, non, on s'intéressera aussi à la bande dessinée et aussi aux séries télé, des choses comme ça. Le fait est que le but de ces podcasts, c'est qu'il y aura peut-être des redites par rapport au site, hein, parce que Toc est bien sûr super encyclopédique, donc il y aura
Et
peut-être
puis on
des
radote en
sites
plus,
déjà
donc.
dedans. En plus, on se répète, hein, même au sein du même podcast, ça peut arriver. Mais on va essayer, voilà, de brosser un peu les choses. Donc, ce que je te propose, Fox, c'est de commencer par un sujet qui me tient à cœur, car quand je ne passe pas mon temps devant mon PC, enfin, si, je le passe devant mon PC, mais quand je ne suis pas devant mon PC en train de travailler sur Toc ou de préparer des scénarios, et que je ne suis pas en train de jouer, je joue pas
Ah, tu
mal
tapes
aux
du
jeux
mulot.
vidéo. Je tripote du mulot, en plus de tâter de la tentacule. Et donc, on va commencer un peu par ce sujet-là. Alors, on se définit pas, hein, comme forcément des experts, donc je n'hésiterai pas à citer mes sources. Notamment pour cette partie-là, j'ai un peu puisé dans la Wikipédia, sur le site aussi le wiki.hplovecraft.eu, sur le site français qu'il faut soutenir sur les jeux vidéo qui s'appelle gameblog.fr, absolument mérifique.
Merci pour la pub, hein. J'espère qu'ils te remercieront d'ailleurs.
Ah bah ouais, il m'envoie des tonnes de jeux, c'est pour ça. Et sur notamment aussi sur jeuxvideo.com et Sens Critique, sur lesquels j'ai un peu puisé aussi des idées en plus de ma pratique, qui n'est pas exhaustive, mais qui quand même poursuit pas mal de choses. Donc, au niveau jeu vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de Lovecraft et le monde de Lovecraft, Cthulhu, étant assez diffus dans pas mal de choses. Vous voyez, on pourrait parler par exemple de Batman en disant que c'est toujours le Arkham Asylum, l'asile
Eh oui,
d'Arkham
c'est
qui est cité,
vrai.
et puis qui est très axé sur la folie. On pourrait vous parler de clins d'œil dans différents jeux. Là, on va essayer de plus se centrer sur les standards, on va dire. Et quoi de mieux? Alors, les standards, oui, excusez-moi, je reviens à ce que je voulais dire, c'est qu'ils peuvent avoir plusieurs thèmes, c'est-à-dire plusieurs types. On va essayer de décrire pour peut-être ceux et celles d'entre vous qui ne pratiquent pas le jeu vidéo. Nous avons principalement les types qu'on va citer, c'est le point and click. Un pointé-cliqué, qu'est-ce qu'un pointé-cliqué? Eh bien, c'est assez simple. Je ne sais pas si tu veux le décrire,
Ouais, c'est quand même quelque
l'ami
chose d'assez.
Fox.
Déjà, c'est vraiment quelque chose d'assez traditionnel, d'ailleurs, qu'on rencontre de moins en moins, mais qui commence à revenir. D'ailleurs, j'ai remarqué, ouais, en
Qui
France, alors est-ce
revient
que c'est de la
avec,
nostalgie ou pas? C'était effectivement.
Ben, avec les Kickstarter, je pense aussi, avec tous les projets participatifs, c'est quand même quelque chose qui me demande moins de moyens à mettre en œuvre.
Tout
Je
à
te
fait. Donc,
laisse, vas-y, expliquer.
on s'est confronté à une scène, donc une image quasiment fixe, hein, dans laquelle on va pouvoir avoir différents objets avec lesquels on va interagir pour trouver la solution pour sortir de cette scène. Hein. Donc, l'un des plus connus était Monkey Island, en particulier de la grande époque. Hein.
Voilà,
Voilà, un
un
monde. Mais
monstre.
il y a eu
Un
effectivement
monstre.
du point and click qui était quand même un peu plus cthulien.
Alors, dans le principe, pour ceux qui ne saisissent pas forcément le principe, c'est que, par exemple, vous voyez une pièce, il y a votre personnage qui est représenté dans la pièce, il se déplacera en 2D ou semi-3D, et en réalité, quand vous passez au-dessus d'un objet d'intérêt, l'icône... Oh, j'ai retrouvé la musique de Monkey Island, tiens. Et l'icône change de forme. Par exemple, il deviendra un œil si c'est quelque chose que vous devez voir. Il deviendra une main si c'est un objet que vous devez prendre. Et donc le principe, c'est ça. C'est de se balader un peu de tableau en tableau pour résoudre une enquête, une énigme, des choses comme ça. Et ça peut être aussi... C'est cool. Et ça peut être bien sûr une enquête. Alors la musique, je l'ai récupérée sur monkeyland.fr, qui est un super site de fans. Mais bon, je ne pourrais pas mettre ça tout le temps. Et donc voilà, le principe du pointer-cliquer, c'est ça. Ça demande quand même pas mal de réflexion, de l'observation, un peu de
Ça peut être très
mémoire
compliqué,
aussi,
hein, parce que
parce
des fois c'est assez
que...
tordu, hein, d'ailleurs.
Voilà. Donc ça, c'est un premier type, le pointer-cliquer. On a bien sûr eu un petit rappel, c'est que l'adaptation de Lovecraft et de Cthulhu fait partie des premiers jeux passés en 3D avec
Ah oui, les
Alone
premiers,
in
les
the
trois,
Dark, pardon.
la trilogie.
Le premier. Voilà, de je ne sais plus qui, mais c'est chez Infogrames. Et alors là, bon, quand on le revoit, c'était à notre époque, hein, on en discutera un peu, mais bon, c'est un peu vieilli. Mais voilà, là par contre, vous étiez en vue, pas en vue subjective, c'est-à-dire que vous êtes en vue extérieure à la personne, vous voyez votre personnage, mais là il se déplace en 3D dans un environnement. Et là, contrairement au pointer-cliquer, potentiellement vous pouvez interagir avec un peu tout le décor. C'était notamment le cas de Alone in the Dark. Tout le monde se rappelle de l'armoire à
La
déplacer pour
fenêtre.
cacher la fenêtre avant que l'espèce de chantaque moisi en forme
Voilà.
de 4 polygones arrive. Donc voilà, nous avons en plus du pointer-cliquer et puis de la vue 3D extérieure, on a aussi la vue 3D, un peu ce qui se rapproche du FPS, donc du first person shooter. Là, vous êtes dans la peau de la personne et vous interagissez avec le reste du décor directement. C'est un des mythes, enfin un des meilleurs jeux à ce niveau-là, c'était
Ouais,
Dark
exact.
Corner of the Earth. Qui est vraiment très très bien fait et qui on en discutera après, mais restitue énormément le sentiment de peur avec des effets visuels qui sont vraiment excellents et qui en réalité vous oblige à jouer en regardant le moins d'horreur possible. C'est assez marrant, vous verrez. Et puis bon, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a aussi les jeux
Ouais, c'est
textuels, pur texte, notamment il y en a un qui s'appelle Anchorhead, Anchorhead. Qui est un jeu comme les tout premiers. Alors là, on va parler à ceux qui jouaient sur PC et pour qui le manoir
Oh
de
là là,
Lorturiel ou
c'était
des choses
terrible
comme
ça.
ça, ou mort sur un. Non, cadavre sur un. Je sais plus trop. Croisière pour un cadavre ou des choses comme ça se rappelleront. Ou là, par contre, vous pouvez avoir complètement du texte, c'est-à-dire vous tapez Open the door, et si vous êtes dans une pièce où il y a une porte, l'action va être menée et vous allez avoir un petit texte qui vous décrit ce qui se passe derrière. Go east, ou alors aller à l'est pour vous déplacer à l'est et tout ça. Donc ça demandait
C'est un peu
un peu de pratique,
c'était
faire des
assez
plans à
compliqué, ouais,
côté
c'est
parce
vrai.
que c'était assez complexe. Ça se basait un peu sur les jeux de type qu'on appelait MUD, c'est-à-dire
Masse.
MUD c'était
Ouais,
User
je sais plus
Dungeon.
exactement.
Multi-user dungeon, je crois, un truc comme ça. Enfin voilà, donc les jeux, alors après on vous passe hein, les jeux de plateforme qui se
Multi-user
sont un
dungeon,
petit
c'était
peu inspirés. Multi-user dungeon, voilà, les MU et les MUDs. Et donc en réalité on s'aperçoit que, alors bon, on va pas passer sur les courses de voitures ou des choses comme ça parce que je suis pas sûr que ça soit intéressant. Mais il y a aussi les jeux de type un peu plateforme. Notamment, je pense à un qui s'appelle Eye of quelque chose. Non, Teractuliana, pardon. Ou Terraria. Terraria, pardon. Terraria, qui est un petit jeu de plateforme. qui est apparemment, alors moi j'y ai pas beaucoup joué, mais très inspiré de Lovecraft et du monde de Cthulhu. Donc voilà un peu tous les types finalement ont été couverts hein, par Lovecraft. Ce que je te propose, c'est de commencer un peu par peut-être la saga mythique, les Alone in the Dark, qui, alors pour vous donner un peu un aperçu, les Alone in the Dark, les premiers. Je vais vous dire ça tout de suite, parce que j'ai ça sous la main. Alone in the Dark, c'était. Oh là là, mon dieu, le premier, c'était en 92. Donc de chez Infogrames. Et donc vous jouiez, je ne sais plus le nom, il avait un nom terrible. Edward Carnby, excusez-moi, c'est un mythe. Le fameux Edward Carnby. Et donc le principe, c'est que vous étiez dans une maison. Je sais plus trop si on savait pourquoi on était dans la maison, mais le fait est que voilà, vous étiez dans la maison. Il fallait rapidement agir pour ne pas. Enfin, disons qu'un des principes, on va pas spoiler, hein, mais un des principes, c'est la maison était un point central du jeu et en sortir posait quelques difficultés. Je ne sais pas si
Ouais,
tu as
c'est un
joué
peu
toi,
dur.
Fox.
Ouais,
Tu
tout
y as
à fait.
joué?
Ouais, c'était assez compliqué d'ailleurs, je trouvais, hein. C'était
Et
plutôt cool.
ça faisait assez peur quand même.
Ouais, c'était. Il y avait vraiment des moments flippants de poursuite, je me rappelle, assez traumatisant. Mais c'est vrai que c'était. Je me rappelle quand même d'une ambiance un peu essai-erreur quand même à un certain moment. Hein. Donc, avec les
Ouais,
difficultés qu'on pouvait
honnêtement,
rencontrer.
taper Alone in the Dark pour juste voir le générique, parce que la musique était assez excellente.
Ah oui.
Et alors là, on parle bien du tout premier.
Oui, pas celui qui était sorti dans les années 2000. Hein.
Car alors après, autant celui-là faisait très peur parce que déjà, point de vue jouabilité, enfin, c'était très compliqué. Et surtout, par exemple, pour courir, il fallait double-cliquer sur la. Ah voilà, j'ai retrouvé la musique.
Ah, exact.
Donc, il fallait double-cliquer sur la touche avancer ou reculer pour courir. Vous pouviez interagir un peu avec pas mal de choses. Vous deviez récupérer des armes. Voilà, avec la voiture qui arrive.
Oui.
Vous
Genre, c'était
verrez avec la.
indispensable les armes, sans ça.
Voilà. Et le principe en lui-même, c'était d'arpenter la maison et d'interagir. Mais c'était très très bien fait. Ça gérait la peur du fait qu'il faille fuir et tout ça. Bon, c'était assez basique hein, à l'époque. Bon, quand vous verrez sur la démo, enfin sur l'introduction, c'est un peu léger. Mais c'est vrai qu'après la série a très vite dérivé.
Ça périclitait en particulier le 3 qui était franchement particulier, j'ai trouvé. Et puis bon,
Voilà,
après, les nouveaux supports étaient encore moins bien.
dès le 2, on passait à la sulfateuse. Et puis les derniers, on n'était plus dans la 3D comme ça, mais on était vraiment avec des jeux beaucoup plus récents. Et c'est vrai que le tout dernier était vraiment pas bon. Parce que c'était beaucoup plus du jeu d'action. Enfin voilà, c'était pas. Il y a un autre jeu dont je me souviens plus, mais qui s'inspire aussi avec la lumière. Un écrivain, on joue un écrivain et c'est basé sur la lumière. La lumière fait fuir les monstres. Je sais plus. Enfin voilà, il y a des jeux qui ont mieux réussi en 3D par rapport au dernier Alone in the Dark. Je sais plus de chez qui il était, mais c'est vraiment pas des réussites.
Les premiers étaient de chez Infogrames, si mes souvenirs sont bons.
Ouais, tout à
Mais
fait.
ensuite, je ne sais pas comment ça a évolué. En tout cas, ce qui est vraiment important de noter, c'est que, comme tu l'as dit, hein, techniquement, lorsqu'on regarde ça maintenant avec l'évolution de la 3D, ce n'était pas particulièrement extraordinaire, révolutionnaire à l'époque, soit, mais
Ouais.
une capacité d'immersivité qui était impressionnante. Hein, c'était vraiment un grand boom hein, à l'époque. Même si ça peut sembler étrange maintenant à une nouvelle génération qui regarde avec quoi on osait jouer. Mais c'est vrai que c'était vraiment d'une terreur, en particulier les premières scènes qui étaient vraiment très très immersives, hein, avec la
Parce
panique qu'on pouvait
que
retrouver.
voilà, dès le départ, vous n'avez pas forcément des armes, et puis les armes ne sont pas forcément efficaces contre tous les monstres, et en plus, il y a des choix que vous faites qui sont des impasses, c'est-à-dire que vous allez mourir. Il y a des choix, c'est assez proche, je dirais, de certains scénarios qu'on a pu jouer,
Ouais,
en
c'est vrai.
ce sens que voilà, un mauvais choix, ça vous tombe dessus assez rapidement, et que donc, ça vous laissait pas énormément de chance. Et le deuxième dont je voudrais parler avant de partir peut-être plutôt sur une BD, là c'est une réussite aussi, mais beaucoup plus de notre époque, c'est celui dont on parlait de Dark Corner of the Earth. Donc là, basé sur le moteur un moteur 3D assez récent, du style celui de. Je me demande si c'était pas basé. Alors, c'est de Bethesda. Alors, il est un petit peu buggé, hein, mais c'est pas non
C'était une de ses
plus.
critiques, ouais, effectivement.
Voilà, moi j'ai pas trouvé ça. Alors, là, vous menez aussi une enquête. Le gros intérêt de ce jeu, comme on le disait en début de podcast, c'est qu'il intègre la notion de peur, en ce sens que plus vous allez tourner la caméra, donc là on est en first person, hein, on est à la place, on voit juste ses mains, des choses comme ça, on voit pas notre personnage, et là le gros intérêt c'est que voilà, plus vous allez regarder des monstres, donc ne pas dévier la souris pour essayer de ne pas regarder en face de vous, et plus vous allez avoir l'image qui va se déformer. Vous allez courir moins vite, vous allez être moins réactif, et jusqu'à une frontière qui est assez difficilement définissable. De fait, on fait très attention parce qu'on ne sait pas à quel moment on va switcher dans la folie la plus totale. Je ne sais pas si tu as joué aussi.
Très peu, ouais, très, très, beaucoup moins. Mais je trouvais que, pareil, encore une fois, effectivement, le système de santé mentale avait cette capacité à reproduire justement peut-être aussi ce qu'on pouvait ressentir en partie. Hein, c'est-à-dire que moins t'en vois, mieux tu portes. Hein,
Exactement, et on compense finalement les horreurs qu'on voit en buvant ou en se droguant, et ce qui a aussi un effet sur votre vision, et tout ça c'est assez bien fait. Et il y a notamment, sans spoiler, une scène de poursuite dans une ville qui ressemble étrangement à Innsmouth.
Ouais, je pense que c'est aussi une de ses points forts,
Et
c'est
franchement,
un endroit extraordinaire.
j'ai encore des frissons rien qu'à penser à la tête des habitants, parce que vous remarquerez dans le jeu que les habitants ont le regard qui vous suit toujours comme un tableau. Et c'est méga flippant parce que où vous alliez, le type, vous avez. Alors, bien sûr, ils ont des têtes un peu, je dirais, d'amphibiens, hein,
Ouais,
pour être.
un petit masque étrange.
Voilà, et en plus, ils parlent de façon très étrange, ils sont pas sympas, et franchement, quand vous arrivez dans cette ville-là, quand ils vous disent de pas aller à un endroit, vous avez limite pas envie d'y aller parce que vous vous dites, putain, ils sont tous tarés ici. Donc, le principe était aussi de mener une enquête. Il y a pas mal de lieux. Moi, je l'ai fini en plus. Ce qui est assez intéressant, et ça, c'est bon de le savoir dès le début, vous avez un pourcentage de réussite à la fin. Moi, je crois que j'étais arrivé à 95%.
Ce qui est correct.
Ce qui est correct, mais voilà. C'est plus sympa de le savoir si vous commencez le jeu, parce que ça veut dire, voilà, c'est un jeu. Alors que si je dis contemplatif, oui et non, mais c'est un jeu où il va vraiment falloir fouiller un peu à droite à gauche. Franchement, les énigmes ne sont pas transcendantes, c'est pas très très difficile. Après, il y a les bugs du jeu qui peuvent vous poser quelques difficultés, mais moi j'ai pas trouvé ça gênant parce que je trouve que l'ambiance est vraiment très bien retranscrite. C'est les années 20, vous menez une enquête, ça commence dans une maison, sous la pluie et tout. Alors là, par contre, par rapport à Alone in the Dark, là, vous avez les gouttes d'eau. Qui vous tombe
On est
sur qui
sur un
tombe
autre
sur la
niveau.
cam enfin sur le visage, donc vous avez des gouttes qui suintent et tout ça, donc c'est assez terrible. C'est principalement basé de Innsmouth, enfin
Cauchemar
des
d'Innsmouth.
le cauchemar, pardon, voilà, exactement, le cauchemar d'Innsmouth. Et franchement, c'est une grosse grosse réussite, avec bon bien sûr Dagon et tout ça. On vous dit pas trop ce qui en découle en plus.
C'est une surprise.
Voilà, parce que c'est vraiment à faire, et ça fait vraiment peur, quoi. Donc là, je pense qu'on a fait le tour déjà. Ça peut être deux grands classiques.
Il y en a
Oui?
peut-être deux dont tu. En plus, on peut, je crois, les trois trouver maintenant, parce qu'ils devraient être en abandon ouvert, qui étaient aussi du milieu des années 90 et qui. Puisqu'ils ont fait l'objet d'adaptation, c'était Shadow of the Comet en particulier, et sa suite,
Ice, Shadow of Ice, là.
qui était du point and click hein, d'ailleurs hein, sur cette partie, et qui était une superbe enquête purement cullienne avec une.
Prisoner of Ice et
Et
Shadow of the
Prisoner, voilà,
Comet.
c'est ça. Deux gros morceaux en hommage à Lovecraft. Avec, d'ailleurs, pour ceux qui jouent dans le monde, dans la partie des montagnes hallucinées, un peu intéressant
Prisoner
comme
of
présence,
Ice,
je
ouais,
pense. Ouais.
c'est assez intéressant. C'était du point and click, hein.
Et puis, alors, ce que tu avais aussi, alors Shadow of the Comet était une superbe enquête dans les terres de Lovecraft qui était vraiment magnifique. magnifique. Et Prisoner of Ice, cet intérêt peut-être aussi d'avoir des petites références qui n'étaient pas existantes d'ailleurs à l'époque, mais avec Cthulhu Fin des Temps, Cthulhu Rising qui pourrait être intéressant. En tout cas, moi je le conseille. Hein. Pour quelqu'un qui veut essayer, je trouve que ça n'a pas si mal vieilli, ce qui est aussi l'avantage des fois des point and click.
Alors, un des meilleurs sites pour l'abandonware, c'est les jeux qui sont passés, je dirais un peu pas dans le domaine public, mais un peu dans l'idée. C'est tout bête, c'est abandonware-france.org, qui est vraiment un super site où vous avez les manuels, vous avez les jeux en eux-mêmes, vous avez la musique et tout, puis il y a des forums. Enfin, c'est vraiment un très très bon site français en plus, pur français. Et puis après, pour les autres jeux, enfin, si vous tapez sur GOG.com, la GoodOldGame.com, et puis sur Steam, vous les trouverez dans des packages ou à 3 euros, 4 euros, 5 euros. Je pense que Steam, ils doivent même avoir Dark Corner ou un truc comme ça, mais c'est très très trouvable. Et je dirais que ça, ouais, je le vois sur Steam. Il est pas trop mal noté. Bon, il peut être mal noté. Si vous trouvez des mauvaises notes, il vaut 10 euros sur Steam.
Ouais, c'est
Dark
pas
Corner of
grand-chose.
the Earth, et franchement, il y a de quoi jouer. Donc si vous voyez des mauvaises notes, vous offusquez pas pour Call of Cthulhu, qui s'appelle Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth, et vous offusquez pas parce que c'est vrai que c'est, après, d'un point de vue technique, il y a quelques bugs, mais qui vous empêchent pas du tout de vous immerger. Franchement, ça fait très très peur. C'est les jeux qu'on vous donne là. Alors les deux point and click, c'est-à-dire Shadow of the Comet et Prisoner Vice, font moins peur, mais c'est des bonnes enquêtes, c'est ce que tu dis. Et puis c'est vraiment là, les quatre qu'on vous a donné, c'est dans le monde de Lovecraft. C'est pas,
Pur, c'est du pur, c'est
voilà,
chez pur.
ils prennent pas juste quelques éléments, c'est tout. Donc voilà un peu pour, je dirais, quatre monuments des adaptations au point de vue jeu vidéo. De toute façon, moi je vous mettrai les liens sur la page du podcast avec toutes les références, parce qu'il y a des super articles, notamment il y en a un sur Gameblog et puis un sur Sens Critique, qui est principalement sur Gameblog, il y en a un qui a fait vraiment une page de règle là-dessus, sur les adaptations de Lovecraft, donc c'est à voir. Je sais pas ce que t'en penses, on pourrait passer à peut-être de la BD
Ah
pour changer un peu.
oui, parce que
Je
là,
te laisse prendre la main.
c'est un peu un péché mignon pour moi. Et puis je pense, ouais, moi j'ai vraiment envie de commencer par une BD bien spécifique. Et je pense que en plus, elle va aussi effectivement être partagée par toi, puisque je sais que nous aimons tous les deux cet auteur particulièrement. Et c'est aussi par lui que j'ai vraiment découvert le mythe de Cthulhu dans la BD. Hein. Donc je pense à Sorel avec l'île des morts.
Voilà, Guillaume Sorel, un cher bourgeois, donc un
Un
pur
mec très
produit de
bien.
Normandie, très
Ça peut être un
sympa
mec bien, ouais.
en plus. Et ouais, enfin, moi je te laisse, j'adore. Enfin, moi j'ai toutes ces BD de Tiffahan, À mort à outrance, Fils du grimacier, Algernon Woodcock, j'ai tout.
Voilà, c'est avec un trait en plus qui, au fur et à
C'est
mesure des années, se bonifie de manière
du
incroyable.
pur Lovecraft, L'île
Ouais.
des morts. Je pense que c'est ça dont tu voulais
Ah
parler,
oui, c'est
cette saga.
exactement celle-ci. Ouais.
Vas-y, je te laisse, mais c'est du pur bonheur.
Ah oui, c'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver confronté à un étrange tableau, l'île des
Qui
morts.
existe?
Oui, tout à fait.
Je l'ai vu.
Ah, tu l'as vu?
Ouais, il était, je sais plus dans quel musée, mais je l'avais vu avec un pote. On était mort, quoi, devant le tableau, on n'en pouvait plus.
Ouais. Et cet homme va se retrouver, à cause de ce tableau, pris dans une gigantesque machination monstrueuse, hein,
Terrible.
qui va vraiment, là, clairement, l'emporter aux portes de la folie, hein, et c'est pas un maître mot, avec des personnages particulièrement hauts en couleur, une intrigue parfois particulièrement horrible. Alors, j'ai pas trop envie de développer l'intrigue parce qu'il faut
Non,
vraiment découvrir, hein,
il y a 5 tomes.
Vous le trouverez aussi en intégrale maintenant de manière
Et le dessin est excessivement torturé, c'est plein de marron, de noir. Le rouge, dès qu'il y a du sang, ressort énormément.
Oui, tout à
Enfin,
fait.
c'est un maître. De toute façon, soyons clairs, si vous avez eu la première édition de RuneQuest, vous connaissez déjà Guillaume Sorel. Parce que c'est lui qui faisait notamment les dessins des brous, vous savez, les créatures un peu dégueulasses là, dans RuneQuest. Enfin, il a fait beaucoup d'illustrations pour le jeu de rôle.
Oui, il a été énormément dans Casus, Skell aussi, si mes souvenirs sont bons.
Ouais, tout à fait.
Donc, non, non, c'est magnifique. Et il y a des planches de toute beauté, des planches pleines
C'est
pages.
cinématographique, c'est des BD à la Xoco, des choses comme ça. C'est vraiment,
Ah oui,
enfin, c'est
c'est
du pur
vraiment
bonheur.
incroyable. Voilà, je le consulte en même temps et je suis sur une des images. C'est une vue en contre-plongée de la gigantesque bibliothèque qui se trouve dans un
Je m'en
endroit
rappelle.
particulièrement étrange, mais Voilà, ouais, rien que de voir ça.
En plus, c'est de l'inspi.
Voilà,
Parce que,
exactement.
alors, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que tous les jeux qu'on vous a cités juste avant, c'est de l'inspi. Alors après, ça fait des scénars plus ou moins standards, mais enfin voilà, l'île des morts, c'est de l'inspiration, quoi. Et puis c'est même, c'est, je dirais, c'est le genre de BD où vous vous plongez dedans avant de préparer un scénar. Moi, ça m'arrive assez fréquemment, et qu'avec les Sorel, vous vous dites, voilà, j'aimerais me remettre un peu dans l'ambiance, vous trouvez une petite musique, voilà, on vous en donne assez sur Toc avec les Poulpcast et tout. Et hop, vous ouvrez la BD et là c'est bon quoi. Au bout de
Ah ouais,
5 secondes, vous êtes à nouveau dedans.
c'est extraordinaire. C'est d'une violence en plus réelle, hein, mais c'est pas de la violence, je dirais pas gratuite, mais elle est très subtile, hein, même s'il y a certaines scènes particulièrement abominables. Hein,
C'est-à-dire qu'en plus, plus le personnage est tourmenté, plus le dessin va être chaotique. Il y a des planches où vous restez devant pour essayer de décrypter un peu tout. Il déborde beaucoup, c'est pas du tout. Alors c'est pas de la BD belge, c'est vraiment de la BD française pure et
C'est pas de la
dure, de
limite.
l'art quoi. Voilà, c'est vraiment de l'art, c'est vraiment un coloriste, c'est un festival et franchement, enfin il y a en plus le scénar est de qui? C'est Mosdi, je crois.
Mosdi, voilà, exactement.
Ouais. Ce sont des grands noms de la. C'est ça, ça fait un peu vieux quoi, ah, ma pauvre dame. Non, c'est vrai que ce sont des grands noms. Alors après, moi j'ai adoré tout. J'ai moins adoré Algernon Woodcock de chez lui.
C'est différent, ouais, c'est différent. Mais dans le pur Cthulhu,
Le fils du grimacier est pas mal.
ouais, et Amnésia aussi. Hein.
Amnésia, plus
Ouais.
difficile à trouver Amnésia, un livre de
Ouais, oui,
Taub.
parce que c'est sorti chez Le Téméraire, qui est effectivement une édition qui a depuis très longtemps disparu. Mais
Et à
pour moi, c'est
savoir
aussi une belle
aussi, je
référence.
sais pas si tu connais, mais il a fait aussi, parce que ça c'est des collectifs d'auteurs, il a dans les Contes de l'Ankou.
Exact.
Chez Soleil. Ouais, alors pour vous dire, L'île des Morts, c'était chez Vents d'Ouest. Alors je sais pas si ça y est
Oui,
toujours.
c'était Vents d'Ouest.
Mens Magna, c'est Sorel. Mort à outrance. Et puis Le Fils du Grimacier, c'est Vents d'Ouest. Je les regarde, c'est pour ça que j'ai la tête penchée, vous le voyez pas. Algernon Woodcock, moi j'ai trouvé que la fin était moins bien. Donc il y en a 5, mais. Donc voilà, alors, enfin ça c'est vraiment. Il y a Mother aussi, ouais. Il y a les
Mother, Tiffany,
Typhaon.
Tiffany,
Je vois que tu les as tous aussi.
exactement. Puis alors c'est pur reculé, hein.
Et
Vous
puis alors
avez.
là, voilà, on vous donne vraiment des purs, des purs, enfin des vraiment des entités quoi. C'est du Lovecraft quoi. Et je rebondirai en partant sur une. Alors, Guillaume Sorel, hein, Sorel. De toute façon, sur toi qu'on l'a. Et je rebondirai sur celle dont tu as parlé juste avant qu'on commence ce podcast parce que oui, c'est dans les coulisses. C'est les trois BD de Horacio Laila,
Ah.
Lalia, pardon. Tu les as?
Oui, je les ai bien sûr. Hein. Donc, Couleur tombée du ciel et Manuscrit oublié, mais j'ai pas la troisième par contre. Hein.
Alors les
Mais...
manuscrits oubliés, la couleur, le grimoire maudit.
Le grimoire maudit, c'est celle-ci.
Voilà. Alors là, c'est du noir et blanc.
C'est du lourd aussi. Hein. Donc.
C'est du très lourd. C'est du pur Lovecraft. C'est vraiment des adaptations. Là, c'est plutôt, vous voyez, du 6 cases par page. Enfin, c'est. Et c'est plein d'histoires en réalité. Par exemple, dans le manuscrit oublié, je crois qu'il y a les rats dans les murs. Il y
Le
a.
podium de Pickman, si mes souvenirs sont
Oh,
bons.
bien joué.
Voilà.
L'indicible. Voilà. Ce sont des. En réalité, c'est la mise en image, le marais de la lune. C'est une mise en image de l'alchimiste. D'histoire. Et là aussi, ça fait assez peur. Là, je suis en train de les regarder, c'est vrai que ça fait assez peur.
Ah, c'est très construit, hein, ça. Alors, c'est un graphisme très dense, hein. En plus, c'est du noir et blanc, mais on est très très loin de la ligne claire, là. On a beaucoup de détails. Je ne sais pas combien de temps il fait pour faire ses planches, mais je pense qu'il doit avoir un certain temps, hein, parce que c'est vraiment très 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 touffu. Mais on a une mise en ambiance et une retranscription des nouvelles de Lovecraft particulièrement réussie. Hein.
Alors c'est chez Albin Michel la collection.
Et c'est un
Donc
beau livre en plus. Hein,
en plus voilà, ce sont de belles ouvrages avec une belle tranche. Et que ce soit les deux qu'on vient de vous citer, donc Sorel ou Lalia, c'est vraiment voilà, vous cherchez une BD ou deux BD, deux séries de BD Lovecraftienne, c'est celle-là. Là il n'y a pas à tortiller. En français, c'est les meilleurs. C'est autant Lalia, c'est vraiment des histoires de Lovecraft, autant L'île des Morts, c'est l'ambiance Lovecraftienne, horreur. L'île des Morts, si je me souviens bien, c'est les années 1800, non, 18, 18, Oula,
Oui,
mon Dieu,
ouais.
il y a Fox qui est mort. Il en a fait tomber ses BD. Je crois que c'est... Je sais plus
Voilà, il y a eu un
l'époque.
accident. Alors, je sais plus, je me
Je crois que
demande
c'est début
d'ailleurs
10.
s'il y a réellement une date.
Ouais, en plus, ouais, non, je suis même pas sûr que voilà ça. Enfin
Ouais.
voilà, on n'est pas à notre époque, on est plutôt début du
On est
20e.
début du 20e, ça c'est sûr. Puisqu'on est effectivement, on voit encore des chevaux, on voit encore
Voilà.
des charrettes un petit peu partout. On est vraiment ouais, sur quelque chose
Sachant
de sensationnel.
que on parle de plus en plus de la réédition de Cthulhu by Gaslight, ça peut être un très bon achat en
Ouais.
préparant Cthulhu by Gaslight, qui, je vous rappelle, est parmi, enfin pour moi, parmi les ambiances les meilleures de Lovecraft en plus des années 20. Hein. Point de vue jeu, là je parle.
Ouais, c'est vrai.
Donc voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire sur sur ces deux BD. Je sais pas si tu veux en rajouter une à ce podcast.
Alors, j'en oserais une.
Allez, osons. Oh, soyons fous.
Je pense à Sanctuaire de Doris
Ah.
Lubeck, qui c'est la plus ambiance Delta Green,
Ah
mais
ben on reconnaît bien la Fox.
je peux pas m'empêcher, c'est bien. C'est bien, tu vois, on a fait trois périodes comme ça. Hein.
Oui, en plus, ouais. Et c'est
On
vrai que
est.
Sanctuaire, c'est très très bon.
C'est très travaillé
Parle-nous-en.
un truc. Hein, donc, et ouais, c'est effectivement une BD en trois tomes. Alors, ce qui est marrant en plus, alors le graphisme est assez particulier, en particulier la mise en couleur, donc on peut aimer ou pas aimer, mais tous les protagonistes, une grande partie d'entre eux, ont des têtes d'acteurs de cinéma. Hein, donc on s'amuse à essayer de les retrouver, de les reconnaître. Hein, on connaît Johnny Depp par exemple à certains endroits, etc. Et l'histoire, c'est, on reprend le premier tome, c'est USS Nebraska, donc un sous-marin. Qui va tomber sur quelque chose de particulièrement étrange, plus profond de la mer. Rien que quand on dit ça, on se met déjà dans l'ambiance, hein, en particulier Tullienne.
Ah,
Surtout
c'est
qu'on va bientôt
clair.
faire le rapport avec quelque chose qui s'est passé pendant les années 45 à Berlin. Et on va essayer. Les gars vont commencer à reconstituer quelque chose d'assez innommable et qui va profondément les plonger dans la folie.
C'est combien de tomes Sanctuaire?
Trois.
C'est fini?
Ouais, c'est
Trois,
fini.
hein? Ouais, c'est ça.
En plus, c'est ça qui est très bien. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je conseille. On est sur voilà, un graphisme quand même assez particulier, surtout dans la mise en couleur. On peut aimer ou pas aimer, c'est chez les humanos, je pense qu'on va le trouver encore, hein, d'ailleurs, mais
Ouais.
on a vraiment quelque chose d'assez bien construit en termes scénaristiques. Et Dorisson, me semble-t-il, est aussi quelqu'un qui a énormément œuvré dans le milieu qu'on apprécie. Voilà, donc.
Non, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est. Puis là, par contre, c'est plus de la BD format actuel.
Ouais.
Enfin, c'est la BD, pas que je dirais réaliste, mais un peu si dans l'idée, plus comme ça, quoi.
Exactement, oui. Ouais, tout à fait.
Donc je réfléchissais, on a fait quelques petits tours un peu à droite à gauche. Est-ce que, alors, je pensais à des séries télé. Alors la difficulté avec les séries télé, c'est que inspirer une série totale inspirée de Lovecraft, il n'y en a pas, purement de inspirée de Lovecraft. Par contre, bon, on en a beaucoup parlé, moi j'en parle assez fréquemment parce que c'est pour moi un mythe et qu'il faut absolument avoir vu si on veut se faire peur et si on aime la. C'est Master of Horror.
Oui. Bah oui, avec certains grands maîtres, effectivement.
Et voilà, vous avez, je sais plus si c'est des rats dans les murs ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a plusieurs nouvelles de Lovecraft qui sont purement et simplement inspirées, enfin mises à l'écran. C'est une série qui a dû faire deux saisons. Et voilà, ce sont les maîtres de l'horreur qui font chacun un épisode. Donc les maîtres de l'horreur, ça peut être voilà,
Carpenter.
Carpenter, qu'est-ce.
Le grand maître, Carpenter.
Voilà, c'est, je dirais qu'il y a des vrais, enfin en plus là c'est vraiment de l'inspiration parce que c'est descriptif et ce genre de choses. Donc, mais c'est vrai que les séries en elles-mêmes, il n'y a pas de séries qui vont de A à Z,
Non, non, non.
parce que bon,
Bah, ça pourrait pas durer très long, en fait, hein.
voilà
T'imagines?
des, ah bah il est mort, ah bah merde il est fou, ah bah c'est con. Donc c'est vrai que c'est, enfin. De toute façon, vous le savez forcément, vu que vous regardez, vous suivez Toc, mais le fait est que la culture lovecraftienne est mais titanesque. C'est parce que là, on vous avait parlé de l'épisode des Simpsons où il y a du Lovecraft, on vous a pas parlé de tous les clins d'œil qu'il peut y avoir à Lovecraft dans différents jeux, mais parmi les plus connus. On n'a même pas parlé des comics, parce que alors là on a parlé des BD françaises, parce qu'on est quand même l'exception culturelle. D'ailleurs, ce qui me fait beaucoup marrer, enfin pas marrer, mais ce qui m'a interpellé, c'est que c'est vrai que autant on exporte beaucoup de choses, autant j'ai vu une interview, je crois que c'était dans Plus ou moins Geek, l'émission là qui est maintenant diffusée sur YouTube, où on exporte très très peu nos BD. On a une espèce de, vous savez, le coup du coq qui chante toujours les pieds dans la merde, le côté un peu hautain. On n'exporte pas nos BD, on les adapte pas, et la personne, c'était assez intéressant, la personne qui était, c'était un dessinateur, il disait c'est étonnant parce que autant bah, tout, voilà, les Belges, on est bien placés pour savoir qu'ils exportent, les Américains, les comics, machin, les mangas, ils s'est exporté, et apparemment la BD francophone, alors qu'on a vraiment des grands maîtres, n'est pas franchement exporté. Je sais même pas si les auteurs qu'ils Moebius ou des choses comme ça sont exportés, enfin j'espère, mais c'est assez étonnant parce
Ouais,
qu'on
c'est vrai.
a quand même des grosses pointures. Je sais pas si tu... Alors, toutes ces choses-là, bien sûr, c'est de l'inspiration, dans la mesure où les gens que avec qui vous allez jouer n'ont pas lu la BD ou quoi que ce soit, parce que que ce soit pour les jeux vidéo avec les enquêtes, ou que ce soit pour l'Île des Morts, s'ils ont lu la BD ou s'ils ont joué au jeu, forcément ça va
Ça va
un peu
gâcher.
bah, ça va un peu perdre son intérêt. Et puis on se voile pas la face, là on vous donne des standards. Je pense que parmi vous qui nous écoutez, il y a plus de 80%
Qui les
des
connaissez,
auditeurs qui les connaissent, qui ont joué, qui l'ont fait 20 fois et qui même les maîtrisent mieux que nous. Qui ont peut-être même rencontré le Guillaume Sorel. Moi je l'ai jamais rencontré, je l'avais contacté, mais il était assez difficile à contacter. Je voulais faire une interview pour Toc, mais non, on n'a pas pu aller au-delà. Donc voilà un peu pour le tour, et je sais pas trop, vu qu'il y a eu quelques coupures que vous ne verrez pas parce que je vais faire du super maco montage et maco moulage, mais je crois qu'on approche de la fin. Alors ce que je voulais, c'est que profiter aussi de ce podcast pour dire que Fox est back to Toc. Comme vous avez pu ou peut-être pas le constater, mais je vous conseille d'aller faire un tour. La toxicopédie est à nouveau en totale
En
effervescence.
chantier.
Donc je vous rappelle, la toxicopédie, c'est tout bête, c'est sur la page de Yard, vous avez dans le petit bandeau vert très foncé, sur fond vert très foncé, vous avez écrit en blanc la toxicopédie, et dedans après vous sélectionnez soit les créatures, les sectateurs, les ouvrages, les sorts, ou alors le moteur de recherche pour le monde entier. Et notamment, bah, si je prends les sectateurs, tu as commencé à pas mal. Alors je vais pas citer les noms, hein, pour pas faire du spoil. Mais disons, pour les masques de Nyarlathotep, commençait à y avoir pas mal de monde. Donc tu les complètes au fur et à mesure. D'ailleurs, Fox, ça vient un peu de demande des forums, c'est ça?
Ouais, voilà, ouais, c'est vrai que par l'intermédiaire des derniers messages qui ont eu lieu ces derniers temps, en particulier Wolfman avec ses demandes
C'est
bien
la faute à
spécifiques.
Wolfman.
Merci de m'avoir remis le pied à l'étrier, mais on se rend compte que face maintenant à. Il y a beaucoup de sorties quand même hein, sur Toulouse, on s'en rend pas compte, mais entre ce qui se passe à l'extérieur et l'information dont on a besoin à l'instant T, ça devient difficile.
Attends, excuse-moi, tu peux reprendre? On fait un petit silence entre ce qui sort à l'extérieur. Vas-y.
Ouais, parce qu'entre ce qui sort à l'extérieur et on se rend compte qu'à l'étranger, la production commence devient vraiment impressionnante et ce que fait également Sans Détour, hein, avec le gros travail fourni depuis ces dernières années, pour retrouver des fois une référence ou une donnée pour pouvoir se préparer soit une partie, même un personnage, hein, comme c'était le cas pour Wolfman. Et ben la toxicopédie reprend vraiment toute son importance hein, pour vraiment pouvoir se préparer et retrouver l'ensemble des données en très peu de temps.
Voilà, on parle notamment des nouvelles productions de Modifus avec Arkham Toulouse, Green Goblin Press, là je sais plus trop, avec le
Oui.
troisième supplément pour Toulouse.
Exactement.
Il y a plein de choses, et notamment Arkham Toulouse, enfin je pense que vous l'avez vu dans les news de Sans Détour, il s'y intéresse.
Oui, je pense que on va avoir du lourd, hein, comme on
Et
dit.
alors ce qui était intéressant, c'est que toi qui es un Delta Grinien, sans vouloir déflorer les différentes intrigues, mais tu me parlais justement de faire un pont
Oui.
avec une campagne un peu mythique et peut-être qui est pas assez connue.
Oui.
Et tu parlais de la campagne
Du royaume des
de
ombres.
Le Royaume des Ombres, qui est
Voilà,
une
oui.
campagne très subtile.
Qui est très très. Oui, elle est bien plus complexe qu'elle ne peut sembler l'être à la première lecture, en particulier pour son dernier chapitre, hein, qui peut être très 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 compliqué, mais effectivement, Pagan Publishing, qui est l'éditeur de Delta Green, avait sorti dans les années 90 une superbe campagne, Le Royaume des Ombres,
Ah là là, ouais.
éditée en 99-2000 par Descartes, et qui, à
Elle est très
cette.
dure.
Ouais, très dur parce que elle commence assez simplement avec une petite enquête
Classique.
comme on en rencontre régulièrement dans Cthulhu, mais qui montre vraiment là, qui permet de découvrir des gens, mais quand même assez
Attends,
ambitieuse, assez difficile.
on a été coupé, qui t'a dit, qui permet de découvrir?
Ouais, une conspiration assez ambitieuse, hein, sans déflorer le sujet, mais qui va permettre d'une petite enquête dans une petite ville perdue des États-Unis, se retrouver au beau milieu d'une jungle d'Amérique du Sud dans des circonstances pas.
C'est assez bien foutu. C'est vrai que c'est assez bien foutu et surtout c'est assez le côté meurtrier qu'on voit très vite et dont mon personnage va être conscient assez rapidement fait que ça devient très vite subtil et on peut pas trop en déflorer parce que c'est vraiment assez particulier comme campagne, notamment contre qui on se bat. Avec qui on s'allie, comment on avance et tout ça. Et donc toi, le principe, c'est que cette campagne-là, tu comptes la mener pour amener tes joueurs vers.
Voilà, exactement. Alors, je l'ai fait jouer là, il n'y a pas très longtemps, avec ce final complètement dément, hein. Et d'ailleurs, le final sera totalement différent en fonction des joueurs, et ça, c'est extraordinaire. Mais moi, il a vraiment été dément, avec des morceaux de bravoure extraordinaires. Un peu comme d'ailleurs il y a sur les illustrations de ce livre.
Oui.
Et on arrive, alors là c'est pas vraiment, c'est pas spoilé, hein, on est dans les années 40, hein, donc on est à la fin de l'invasion française, septembre 40 vient de passer, et donc j'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui me permettrait d'embrayer sur cette époque. Alors il y avait des choses, hein, la maison reste ouverte pendant les travaux, mais tout ce qui se fait avec Arthur Cthulhu, je pense, est une super passerelle. En plus, c'est encore plus vrai que moi, fondu de Delta Green, j'ai vraiment envie aussi de travailler
De
avec Arthur,
poursuivre.
voilà, et de faire un mix avec ça et tout le background qui existe autour de Delta Green et de la Carotheca en particulier. Et je pense qu'on a une période de jeu qui va être particulièrement intéressante de notre côté. Parce que ça peut ouvrir des possibilités en termes de scénario sans aucune mesure, hein. Je pense que ça va faire des choses dantesques. Ouais, je pense que ça va être assez
Avant que ça
apocalyptique.
sorte en français, vous pouvez vous récupérer en VOD ou un truc comme ça, ou je sais pas trop, en location, genre quand les aigles attaquent ou des choses comme ça, des bons vieux films de guerre avec des nids d'aigles au fin fond de la Bavière,
Ouais, voilà.
avec du Robert Mitchum, non, je déconne, mais voilà, armé et menant des commandos. Enfin, parce que de ce que j'ai lu, Artung Toulouse, n'apporte pas un système, hein, c'est vraiment un contexte principalement.
Essentiellement, oui, d'après ce que aussi on va travailler là-dessus, hein, d'ailleurs, pour en dire encore plus, mais ouais, le contexte a l'air. C'est multi-support, hein, puisque bon, c'est vrai que maintenant on parle beaucoup de l'appel de Cthulhu, mais on joue à Cthulhu avec n'importe quoi, hein, le nombre de
Voilà.
systèmes maintenant qui sont ouverts. Et il apporte surtout cette possibilité multiplateforme de jouer dans cette période. Bon, elle est un peu tronquée, bien sûr, mais ouais, je pense que.
Alors on va essayer, c'est ce que tu disais, on va essayer quand même de nous, on tente en ce moment des rapprochements avec ces éditeurs-là pour que vous ayez plus d'infos sur TOC, pour qu'on puisse critiquer plus rapidement les suppléments et que vous ayez un peu les infos en avant-première parce que. Du fait de vos nombreuses visites, on se considère comme étant un bon relais pour la communauté française. Donc c'est vrai qu'avec Fox, ce qu'on dit en ce moment, c'est d'essayer de se positionner auprès de ces éditeurs, donc Golden Goblin et puis Mordiffus. Et ils nous ont déjà répondu plutôt favorablement. De se positionner comme on s'est positionné avec Sans Détour en relais. Sachant que Sans Détour, les bouquins sont critiqués un peu partout et les forums sont là aussi pour discuter, alors que le côté américain, justement, je dirais le point d'entrée français, ça serait plus facile que ce soit au niveau de TOC. Donc on est en train de travailler là-dessus. Donc voilà, donc j'avais été contacté, oui, c'est chez Focus Interactive qui est vraiment excellent. Enfin voilà, on a encore pas mal de possibilités et je pense que peut-être on élargira en se prenant de temps en temps un ou deux films standards. Bon il y a du lourd. Hein. Quand on parle de films, là, tout le monde pense à Jeffrey Combs et tout ça comme point de vue acteur et tout. Mais donc là il y aura du lourd et voilà, les liens, on va vous les mettre, tous les liens et les références, on va vous les mettre dans la page du podcast. Et puis n'hésitez pas, hein, parce que bon, je sais que je sais pas pour l'instant si les gens n'osent pas ou quoi que ça, ils ont peur de nous. On m'a reproché pour le moment peut-être de pas avoir un planning bien à jour, mais c'est vrai que ça se décide un peu aussi en fonction de nos disponibilités à Fox et à moi.
Ouais, parce qu'on a un peu de travail et c'est pas toujours
Voilà.
facile de se libérer le soir en fait, hein, donc
Et
c'est.
c'est vrai que à deux, pour le moment, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. On peut, voilà, tu peux, je peux, hop, c'est parti. Mais n'hésitez surtout pas, si vous dites 1 heure, j'ai envie de taper à Cosette et je voudrais parler d'un jeu ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Vous en parlez sur les forums ou alors vous m'en parlez directement par mail. Mais faut surtout pas hésiter, parce que on est là pour ça aussi, pour disséquer les idées qu'on n'a pas forcément. Et puis même.
Puis c'est un moment de convivialité en plus entre nous, et puis de s'entendre, de discuter au-delà des forums ou des échanges qu'on peut avoir sur d'autres plateformes, c'est sympa, je pense.
Voilà, ouais, le côté direct aussi permet d'être beaucoup plus l'émulsion, enfin le côté confrontation en direct permet de discuter de choses beaucoup plus intéressantes que peut-être des choses à plat juste sur les forums et tout ça, quoi. Sur ces bonnes paroles, Fox, je vais te remercier. Alors, si vous trouvez que ce podcast est un peu décousu et si on rigole par moments, ne vous inquiétez pas, c'est parce que entre la campagne des Yvelines et la campagne normande, il y a des
Le
problèmes de
mien
connexion.
est terrible en ce moment aujourd'hui.
Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être quelques coupures érodites. Je vais essayer de lisser ça, mais voilà. Donc, je te remercie, Fox, et je te dis bon bah à la prochaine. Allô? C'est la cata. Celle-là, je la laisserai pour que les gens comprennent. Donc, je te remercie, Fox.
aussi.
Et je te dis à la prochaine dans des conditions un peu plus propices. Et sur ce, ben, bah, foutre l'huile et poulpe.